Interview.
2 jours. Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec au studio aujourd'hui Margot Lesturgeon. Bonjour.
Bonjour.
Et à côté de vous, Eric Chabanne. Bonjour.
Bonjour.
Margot, vous êtes apicultrice et formatrice aussi au CFPPA dans le domaine de l'apiculture. Donc, et quant à Eric, vous étiez un stagiaire dans cette formation proposée l'année dernière, j'imagine, et qui vous a permis peut-être d'œuvrer sur une perspective d'apiculteur. Alors, on peut parler de ce centre de formation professionnelle hein, qui se trouve à Die. À quelle adresse déjà ?
Alors, c'est avenue de la Clairette, donc c'est le CFPPA de Die. C'est un centre de formation professionnelle et de promotion agricole. Donc c'est un centre qui fait partie d'un plus gros groupe qui fait partie du Valentin à Bourg-lès-Valence. Donc c'est un organisme public de formation du ministère de l'Agriculture. Donc il y a un certain nombre de formations à destination des adultes qui sont délivrées au CFPPA de Die. Il y a notamment la formation BPREA, avec comme sujet le maraîchage, l'élevage, les PAM, la viticulture et l'arboriculture. Il y a une formation ouvrier à destination du maraîchage, de la viticulture et des PAM, une formation musher et une formation apiculture. Donc tout ça, ça fait un total d'une centaine de stagiaires qui sont accueillis chaque année dans les locaux du CFPPA.
On pourra parler aussi donc de cette économie hein, qui se développe, j'imagine.
Alors globalement, on va dire que les formations agricoles, on le vend en poupe ces dernières années, notamment au niveau du CFPPA de Die qui a mis ses points forts sur l'agriculture bio, sur l'agroécologie, sur l'agriculture alternative. Voilà, qui sont des sujets qui sont assez à la mode en ce moment. Et donc, ça attire beaucoup de stagiaires et il y a globalement pas mal de demandes. Voire le CFPPA refuse certaines candidatures. Voilà, puis c'est un centre de formation qui est assez réputé avec une formation, un accompagnement assez personnalisé, avec la rencontre d'acteurs territoriaux, voilà, de partenaires locaux et des formateurs qui sont expérimentés.
Alors, une formation ouverte à tous, pour ainsi dire ?
Alors, c'est des formations pour adultes. C'est des formations qui sont ouvertes à tous. Après, il y a différentes manières de financer ces formations. Pour les agriculteurs, ça peut être par le biais de Vivea. Et sinon, pour les autres, ça peut être sur leur compte personnel de formation, le CPF. Et aussi sur les financements individuels.
Et vous avez le statut Calliope ?
Tout à fait. Le CFPPA de Die est certifié Calliope depuis 2021.
Eric Chabanne, stagiaire également, vous avez effectué ce stage au CFPPA. Dans quel domaine ?
Ah, j'ai suivi le stage apiculture. C'était un stage de 70 heures réparti sur 2 semaines, une en avril et une autre en juin. Voilà, moi c'était, comme le disait Margot, c'était dans le cadre d'un congé personnel de formation.
Vous êtes en activité actuellement et vous avez le désir de vous convertir dans une activité ?
C'était un projet plutôt d'avoir, de pouvoir conduire 2 voire 3 ruches. Donc je n'ai pas l'intention d'en faire une activité professionnelle, mais en tout cas c'est un sujet qui me passionne. Et comme j'avais un peu plus de temps, voilà, ça m'a permis de commencer la démarche.
Nous sommes avec vous, Margot, puisque prochainement, en février, va se produire une nouvelle formation en apiculture. Et les candidatures, j'imagine, sont déjà comblées ou il y a encore des places ?
Alors, il reste de la place. Donc, juste pour préciser, la formation que Eric a suivie, c'était un UCAR. Donc, c'était une formule de 2 fois 1 semaine. Cette formation est pleine pour l'année 2025, mais on a une autre formation qu'on propose au CFPPA de Die, c'est la formation découverte d'une saison apicole, de l'installation du rucher à la récolte du miel. Et donc cette formation, elle dure 63 heures, elle a lieu les vendredis exclusivement, donc soit en demi-journée, soit en journée complète. Et la formation est répartie du mois de février au mois d'octobre, donc ça permet d'embrasser toute la saison apicole. et sur l'année. Et donc ça, il nous reste de la place. On a 12 places au total. Et là, on doit avoir 6 ou 7 stagiaires inscrits. Donc il reste encore quelques places. Ça commence le 7 février.
Alors, comment se déroule justement cette formation en apiculture ? Est-ce que les personnes inscrites ou qui viennent s'initier ont déjà une base de connaissances sur le domaine ? Ou alors, vous acceptez les débutants ?
On accepte les débutants. C'est plutôt une formation à destination des débutants ou des personnes qui ont déjà quelques ruches et qui ont envie de consolider un peu leurs connaissances. On a une alternance de théorie et de pratique. On a la chance d'avoir un rucher école qui est sur la commune de Die, avec une quinzaine de colonies. On a une miellerie dans les locaux du CFPPA qui permet d'extraire le miel. Et on a aussi un petit local de bricolage pour préparer le matériel pour la saison.
Vous-même, donc, Eric, vous aviez à la base une ruche aussi ou alors...
J'avais, il y a plusieurs années, fait un peu d'apiculture avec mon beau-père et j'avais suivi des stages en cours du soir, mais c'était tellement vieux, ça remonte à 20-30 ans, et c'est pas comme le vélo, ça se perd. Et du coup, là, j'ai pu repartir, enfin, ça m'a rafraîchi les idées au niveau de ce que j'avais pu voir avant, puis ça m'a conforté dans le choix de mener à bien ce projet.
Alors, il y a un aspect de la ruche, c'est celle qui peut être sauvage, qu'on récupère. Et puis, est-ce qu'il y a aussi des ruches qui sont produites et vouées à être commercialisées pour les professionnels ?
Au niveau du CFPPA ?
En général, je parle au niveau du CFPPA, qu'est-ce qui est proposé précisément ?
Au niveau du CFPPA, on a une quinzaine de colonies. Et l'idée, c'est du coup de visiter ces colonies, d'apprendre à ouvrir une ruche, de multiplier aussi les colonies, d'apprendre à faire des essaims. Les grands objectifs de ces formations, c'est comprendre la biologie de l'abeille, connaître et utiliser le matériel apicole, maîtriser la réglementation, multiplier les colonies et assurer le suivi sanitaire. Donc dans les grands... Oui, on développe les colonies, on apprend à faire des essaims. Et s'il y a des essaims qui s'envolent sur le rucher, on peut être amené à les récupérer.
Justement, vous êtes apicultrice, Margot, et pour vous, cette profession, vous l'avez découverte à quel moment ou vous étiez déjà née dedans ?
Alors, je ne suis pas née dedans, mais je suis apicultrice depuis 5 ans maintenant. J'ai deux formations agricoles et j'ai fait une spécialisation en apiculture au CFPPA de la Côte-Saint-André en Isère. Voilà, j'ai travaillé pour des professionnels dans le secteur et je me suis installée petit à petit jusqu'à avoir un cheptel suffisant pour en vivre, pour produire du miel, de la propolis, assurer de la vente directe et quand même garder du temps pour pouvoir présenter ces formations au CFPPA de Die.
Ça prend beaucoup de temps de s'occuper des ruches, en fonction de la quantité qu'on possède, hein, je ne sais pas. Est-ce que c'est une activité à plein temps ou alors ça vous laisse une certaine liberté malgré tout ?
On va dire que c'est très hétérogène dans le rythme. C'est très intense printemps-été, au moment où les abeilles sont en activité, où les fleurs sont là. Il y a beaucoup à faire sur une très courte période. Et en période hivernale, automnale, c'est beaucoup plus calme. Donc voilà, il y a un gros pic d'activité, mais le reste de l'année, ça nous permet de faire d'autres choses.
Qu'est-ce qui vous a attiré justement dans cette activité avec l'abeille, Margot ?
Moi, j'étais toujours passionnée des insectes et comme je disais, j'ai fait des études d'agriculture. Donc je voulais m'installer en agricole. Donc j'ai cheminé petit à petit jusqu'à arriver aux abeilles.
D'ailleurs, est-ce que l'abeille est le seul insecte mellifère dont on peut tirer du miel ou...
Oui, c'est uniquement avec l'abeille mellifera qu'on fait du miel. Après, il existe énormément d'abeilles sauvages. Il y a environ, si je ne dis pas de bêtises, 1000 espèces d'abeilles sauvages autres en France, mais qui ne sont pas élevées en particulier, mais voilà.
Elles sont trop sauvages, hein, en quelque sorte.
C'est ça, oui.
Et Eric, vous-même, donc avec cette formation, ça vous a permis de vous conforter dans cette envie de produire du miel et comment vous allez prévoir cette activité ?
Alors, je pense que ce n'est pas que l'envie de produire du miel. Je pense que quand on a la chance de connaître un apiculteur professionnel ou amateur et qu'on voit une ruche, qu'on soulève un cadre, qu'on regarde ces milliers d'abeilles et qu'on cherche une reine, etc., et qu'on voit cette société qui est organisée, je pense qu'on devient, on peut devenir vite passionné. L'activité miel, c'est qu'un plus pour pouvoir en profiter. Mais en premier lieu, c'est vraiment le plaisir d'être en contact avec ces insectes.
Le bourdonnement, c'est quelque chose d'agréable aussi. C'est une musique agréable.
Oui, parce que t'en penses. Mais...
oui. Quand c'est pas trop agressif, oui, c'est très agréable.
Ça dépend si on est bien protégé, comment se passe la visite. Et puis, il y a plein de bourdonnements différents. Et oui, ça plonge dans un moment, un espace-temps qui est assez poétique.
Ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'on a l'impression qu'on va les déranger, mais ça reste relativement très... Enfin, quand ça se passe bien, ça reste très très calme. Et c'est vrai, comme dit Margot, c'est assez poétique. Ouais.
Il faut aller en douceur.
Oui. Ah, oui. Il faut respecter l'abeille.
Oui. Et il y a au départ, il y a une reine. Cette reine se retrouve. Elle peut être disponible dans le commerce, hein, je crois. Ça, on peut acheter une reine pour développer sa ruche. Mais est-ce qu'elle est seule ou alors il y a un début de dessin avec elle qui puisse peut-être la seconder. Je ne sais pas comment ça se passe. La création d'une ruche, comment ça se passe ?
Alors, une reine seule ne va pas survivre très longtemps. Elle a besoin d'abeilles qu'on appelle des accompagnatrices qui vont être là pour la nourrir, pour la réchauffer, pour la rassurer. Oui, donc on peut acheter des reines dans le commerce, mais ces reines sont très vite intégrées dans une colonie, en fait, qui aura été au préalable orphelinée, donc qui sera sans reine. Et les abeilles seront en attente et en demande d'une reine. Et c'est à ce moment-là qu'on apporte une reine qu'on a pu acheter dans le commerce. Ou qu'on a élevé soi-même.
Il n'y a qu'une seule reine dans une ruche. Ou combien même il y en aurait plusieurs, il y a nécessité de les séparer, de les en prélever.
Normalement, il n'y a qu'une seule reine par ruche, sauf cas très exceptionnel de cohabitation de vieilles reines et de jeunes reines. Mais c'est une reine par colonie.
L'investissement pour se former et peut-être aussi développer sa première ruche, son premier essaim, il s'agit de combien en investissement, vous savez ?
Le coût de la formation, c'était, en ce qui me concerne, 1000 euros, je crois, à peu près, environ. Et puis après, ça dépend. Moi, j'ai la chance d'avoir récupéré des éléments du rucher de mon beau-père, donc... L'investissement va être relativement modéré, mais sinon je pense qu'avec la ruche, les cadres, le petit matériel, je pense qu'avec et l'achat d'un essaim, je regarde Margot parce que j'ai une bêtise, mais je pense qu'avec 500-600 euros, on doit pouvoir commencer à démarrer début de quelque chose.
Oui, surtout il y a beaucoup de matériel de seconde main disponible. Sur le Bon Coin ou en vente entre apiculteurs, et ça permet de réduire beaucoup les frais. Après, ça dépend évidemment de la quantité de ruches, de la surface, de la production. Mais oui, en tout cas, le prix de la formation, c'est à peu près 1000 euros en CPF et 800 euros entre 800 et 900 euros. Quoi.
Alors, il y a cette formation qui vous permet d'apprendre quoi précisément dans la gestion d'une ruche ?
La formation est complète, c'est-à-dire, et sur 15 jours, elle est même assez il faut la digérer.
Elle est très complète. Hein,
elle est complète. Je crois que Margot a cité différents thèmes. Hein. Ça va de la biologie de l'abeille, en passant par la réglementation, la conduite du rucher, Ce qui est bien, c'est que la formation est dynamique parce qu'il y a à la fois ces apports théoriques, mais il y a aussi des parties très concrètes, puisqu'il y a le Rucher École, il y a la miellerie en dessous du CFPPA, et tout ça fait qu'on ne voit pas passer la semaine. C'est assez pour des gens qui, comme moi, avaient peur de rester une semaine assis, un peu comme à l'école. Ce n'est pas du tout le cas. Ça passe très très bien à cause de ce dynamisme qu'il y a entre les différentes thématiques qui sont abordées.
Oui, on essaye de faire pratiquer au maximum les stagiaires. Bon, bien sûr, en fonction de la météo, ça c'est un facteur qu'on ne maîtrise pas. Mais sinon, on essaye de faire des groupes de stagiaires. Ils sont entre 1, 2, 3, voire 4 sur chaque ruche ouverte. Après, ça dépend de la taille du groupe. Mais voilà, on essaye de faire de temps en temps au moins des binômes ou des trinômes. Voilà, pour faire manipuler au maximum les stagiaires, souvent c'est ce qu'ils attendent de la formation. Donc on est équipé en tout petit matériel, on a aussi des combinaisons pour mettre à disposition des stagiaires le temps de la formation. Voilà.
Il y a l'avantage aussi, je ne sais pas si c'en est un, mais la petitesse de cet animal et donc de cette ruche aussi permet de diagnostiquer un problème assez rapidement si on en voit un. Et d'y remédier
Les problèmes ne sont pas forcément en rapport avec la taille de l'insecte. Enfin, la complexité du problème n'est pas forcément en rapport avec la taille de l'insecte.
Les choses vont plus vite par rapport à la réaction ou à une pandémie ou un problème de santé de la ruche. Contrairement à un animal plus grand qui peut avoir une période d'incubation avant que se déclare vraiment un problème.
Ça dépend vraiment des maladies. Il y a plein de maladies différentes qui peuvent atteindre l'abeille, avec des symptômes qui se recoupent pas mal entre les maladies. Donc ça peut ne pas être évident de définir quelle maladie on a à faire. Après, on va dire qu'actuellement, le gros problème de l'apiculture de production, c'est le varroa. Ça, on est quand même assez équipé, on va dire, et assez informé surtout sur...
Le varroa, vous pouvez préciser?
Oui, c'est ce qu'on peut le comparer à un pou ou à une tique chez l'être humain. Donc c'est un petit insecte qui se fixe sur l'abeille et qui pompe l'hémolymphe de l'abeille et qui l'affaiblit. Et ça entraîne des effondrements de colonies et des pertes de cheptel importantes dans le monde. Et voilà, on est de plus en plus informés, mais ça reste quelque chose dont on a du mal à se débarrasser, qui demande beaucoup de temps et d'énergie aux apiculteurs et aux apicultrices pour lutter contre. Voilà.
Et ça, c'est un aspect que vous abordez, hein, le traitement de maladies au sein d'une ruche dans cette formation.
Tout à fait.
Quelques bases.
Oui, on informe sur le suivi sanitaire des colonies. Donc là, sur le rucher école, on a des pratiques bio. Donc on informe, enfin, on pratique principalement ces pratiques bio. Après, on informe sur tous les traitements qui existent. Voilà, ça va de l'encagement de rennes au comptage varroa. On va dire un peu, c'est un peu les actions phares des traitements contre le varroa sur le rucher école.
Éric Chaban, pareil, suite à cette formation, est-ce que vous pratiquez auprès d'autres apiculteurs ou d'entretenir cette formation, cette connaissance?
Non, pour l'instant, je la complète simplement par de la lecture. Je n'ai pas voulu démarrer à la suite de la formation parce que ça me semblait être une année compliquée. En tout cas, c'est ce que j'entendais dire par les apiculteurs. Jusqu'en juin, je pense que ça a été compliqué du fait de la météo. Je crois qu'après, ça s'est arrangé. Mais du coup, je n'ai pas voulu démarrer dans une année compliquée. Donc, je me suis laissé le temps. Je n'ai pas non plus acheté un essaim avant l'hiver. Donc, je le ferai au printemps pour démarrer sereinement.
Pour rebondir sur, oui, sur cette année compliquée, on a les premiers rapports d'estimation de la production de miel qui ont été publiés. Donc c'est encore des estimations. Mais en Auvergne-Rhône-Alpes, on serait à moins 47% de miel produit par rapport à 2023. Donc c'est une réduction quand même très, très drastique. Et comme le disait Eric, c'était une année compliquée avec un printemps très pluvieux. Il y a eu beaucoup de charges de sirop et de sucre qui ont été données aux abeilles pour éviter qu'elles ne meurent de faim. Et par la suite, la fin de saison n'a pas toujours été au rendez-vous. Et bon, après, ça dépend beaucoup des territoires, donc ça dépend des endroits en France. Mais globalement, on estime que la production nationale en 2024 sera de à peu près 20 000 tonnes, sachant qu'en 2023, on était à 30 000 tonnes. Donc voilà, ça donne un peu une idée de la réduction. Et malgré ça, en Auvergne-Rhône-Alpes, on reste la troisième région la plus importante en France en termes de production. Sachant que la première, c'est l'Occitanie et la deuxième, c'est la Nouvelle-Aquitaine.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du DIWA.
107.5.
101.7.
FM.
Et quelles ont été les complications cette année? On ne peut pas dire que ce soit la sécheresse, mais plutôt l'humidité. Est-ce que c'est nocif aussi pour une ruche?
Oui, bah, on va dire que la saison a bien démarré avec un bel ensoleillement. La ruche s'est beaucoup développée. Donc on est passé de quelques milliers d'abeilles à 30 000, 40 000 abeilles par ruche. Peut-être un peu moins, mais c'était au printemps. Et donc tout ça, ça fait des bouches à nourrir. Et en fait, après ce fort pic de développement, il a plu pendant de nombreuses semaines. Les abeilles n'avaient souvent plus de stock dans la ruche parce qu'elles sortaient de l'hiver. Et en fait, ça a entraîné pas mal de mortalité. Donc des pertes de cheptel. Et nous, les apiculteurs et apicultrices, ont souvent été amenés à devoir nourrir leur colonie pour qu'elles puissent passer ce cap un peu compliqué. Et derrière ça, il y a eu des averses qui sont tombées pas au bon moment. Il y a eu des sécheresses importantes qui ont diminué la quantité de nectar disponible. Changement climatique, intoxication aussi au niveau des produits chimiques possiblement mis sur des cultures. Là, je parle pas forcément local, mais je parle de problèmes un peu plus globaux. Voilà, tout ça fait que ça a été une année complexe.
Il y a eu à un moment aussi les prédateurs, tels le frelon. Est-ce que ça, c'est un gros problème ou c'était épisodique?
Pour cette année, c'était épisodique. Il est venu assez tardivement, le frelon asiatique, à un moment qui dérangeait moins les colonies que d'autres années. Et globalement, la pression était moins forte que ces dernières années.
Ces formations donc, sont ouvertes à tous. Est-ce qu'il y a des démarches en préalable de cette inscription pour des personnes qui seraient intéressées à cette formation?
Eh bien, vous pouvez aller voir le site du CFPPA ou appeler le CFPPA de Die. Vous pouvez vous inscrire jusqu'à quelques semaines avant le début de la formation. Donc, je rappelle, la formation commence le 7 février. Donc voilà, mais au plus tôt, le mieux, si vous voulez vous assurer d'avoir une place disponible, il y a quelques démarches administratives à faire.
Et il n'y a pas que l'apiculture qui est proposée en formation. Est-ce qu'il y en a d'autres en prévision dans les prochains temps?
Eh bien oui, il y a quelques formations là où il reste encore de la place pour 2025. Il y a notamment la formation, donc c'est sous forme d'UCAR, donc cette fois-ci, ça sera des formations de deux fois une semaine. Et il y a notamment la formation Petits Fruits, la formation Porc, la formation Transformation et la formation Poule, où il reste de la place pour l'année 2025. Donc n'hésitez pas à vous inscrire.
Les personnes qui viennent vous voir, en général, vous se former chez vous, ont-elles une base constitutive ou alors elles sont complètement débutantes ou elles sont en cours de reconversion professionnelle? Est-ce que vous équilibrez un peu cet aspect-là?
Ouais, c'est très variable. On va dire que globalement, le profil, c'est quand même plutôt débutant. Après, j'ai eu aussi des personnes qui avaient déjà 15, 20, 30 colonies depuis plusieurs années et qui voulaient consolider leurs acquis. Mais voilà, on a un public très variable, d'âge aussi très variable. On a à peu près l'équilibre homme-femme, globalement, dans les formations. Mais ouais.
Il y a aussi divers miels, on parle de miel de millefleur par exemple, le miel de châtaignier, le miel de lavande. Qu'est-ce qui détermine une ruche à produire une espèce de fleur en particulier?
En fait, ça va dépendre des fleurs qui sont dans l'environnement à un instant T.
Elles sont du genre à trouver ce qu'il y a le plus proche, tout simplement?
Elles vont là où c'est le plus appétant pour elles, là où c'est le plus riche, là où c'est le plus généreux. et aussi là où c'est le plus proche, parce qu'elles vont s'économiser. Mais elles butinent dans un rayon de jusqu'à 3 km en moyenne. Et à un instant T, elles vont aller là où c'est le plus appétant. Après, voilà, on suit un petit peu... sur l'année, en fait, on peut faire plusieurs types de miel parce que tout n'est pas en fleur au même moment.
Juste, ça veut dire qu'une ruche peut produire différents miels en fonction
oui,
des fleurs.
Tout à fait, oui. Voilà, donc ça peut, on peut commencer l'année avec un miel de printemps, par exemple, qui est souvent un miel toute fleur parce qu'il y a beaucoup de fleurs différentes qui sont peu généreuses, on va dire, au printemps. Donc ça fait un mélange de toutes ces fleurs. Ensuite, il peut y avoir un miel de tilleul, donc ça veut dire une récolte après le miel de printemps, des hausses qui sont vides au début de la floraison du tilleul, une récolte à la fin de la floraison du tilleul pour essayer d'avoir uniquement des fleurs de tilleul, du nectar de fleurs de tilleul dedans. Et ensuite, ça peut continuer, si on déplace ses ruches, ça peut être des miellets de châtaigniers, ça peut être, par ici, la miellée phare, c'est quand même la lavande. On peut avoir du miel de miella, du miel de thym, voilà.
Éric Chaban, vous-même, donc, avez eu cette formation. Est-ce que vous vous destinez à une catégorie de miel en fonction de la nature autour de chez vous? Qu'est-ce que vous envisageriez?
Non, a priori, c'est une question que je ne me suis pas encore posée. Je verrai si elle vient en cours de route, mais pour l'instant, non, ce sera...
Pour préciser, oui. pour commencer, c'est plus facile de faire un miel toute fleur en laissant les hausses plus longtemps en place, parce que vouloir extraire, vouloir isoler des miels en particulier pour faire des miels monofloraux, ça demande pas mal de réactivité, de disponibilité, plus de travail aussi. Donc vouloir faire un miel polyfloral, c'est plus simple, on va dire, pour commencer.
L'entretien d'une ruche est très régulière? Est-ce qu'il est important d'opérer une certaine hygiène, ou alors elles sont plutôt autonomes, les abeilles, sur ce domaine?
Sur l'hygiène?
Oui.
Alors les abeilles se gèrent l'hygiène de la ruche, on va dire, globalement. Après, tout à l'heure, on parlait des maladies. Voilà, il y a certaines maladies spécifiques où là, on va dire que l'apiculteur ou l'apicultrice va mettre son pied dans la ruche pour c'est une façon de parler, mais pour l'aider en fait à passer le cap sur certaines problématiques, voilà, notamment, comme on disait tout à l'heure, le varroa, qui reste un insecte qui provoque un effondrement des colonies, et on va dire que sans action de la part de l'apiculteur ou de l'apicultrice, on est amené à risquer des grandes pertes de cheptel. Voilà.
Je reviens un peu aussi sur cet aspect agriculture en général, en fonction des plantes accessibles aux abeilles. Vous parliez de la lavande, qui est une exploitation courante sur le Diwa. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs ou d'autres cultures qui sont possibles en partenariat avec des apiculteurs pour développer des productions de miel, par exemple? Est-ce qu'il s'établit ou alors il y a... C'est tout à fait le hasard qui laisse les choses se faire.
Vous voulez dire pour avoir un miel particulier, si c'est dû
oui.
Au hasard?
Par exemple, la lavande, est-ce qu'il y a en quelque sorte un partenariat entre l'apiculteur et le producteur de lavande pour essayer de générer un fonds de partenariat et de production?
Alors, souvent, ce qui se fait, donc, pour avoir un rucher à un endroit, il faut avoir eu, bien sûr, l'accord du propriétaire. C'est souvent chez des agriculteurs ou des agricultrices, pas toujours chez les détenteurs de lavande, parfois. Et dans ces cas-là, il y a un accord qui est passé avec un loyer en miel ou en argent. Ça dépend un peu des cas de figure. On peut imaginer des partenariats agriculteurs-apicultrices avec une décision commune sur qu'est-ce qui serait mis en culture. Après, la majorité du temps, ça se passe plutôt sur une manière où c'est l'apiculteur va chercher des endroits où on a telle ou telle production. Après, ça peut aussi être de la flore spontanée et sauvage. Par chez nous, c'est quand même assez représentatif. Et dans ces cas-là, ça passe par des stades de repérage, de sur carte ou alors in situ, d'aller voir les agriculteurs, de rencontrer les gens, de savoir ce qui va être semé l'année prochaine, se renseigner pour évaluer un petit peu la ressource disponible avant de poser les ruches.
cette activité d'apicultrice dont vous êtes aussi en activité, vous produisez ce miel et vous en faites une distribution commerciale par vos propres moyens, ou alors est-ce qu'il existe aussi des partenariats de manière à pouvoir écouler cette production ?
Oui, moi je vends dans les magasins principalement, donc à Adi, à la Carline et au Silo. Et j'ai quelques autres points de vente, le monastère de Sainte-Croix à Sainte-Croix, l'épicerie associative de Beaufort-sur-Gervanne à Beaufort-sur-Gervanne et à la boutique Hazard à Cray. C'était quoi le reste de la question ?
Et puis le mode de distribution, comment
oui, donc,
vous opérez
via
vous-même ?
Via les magasins. Donc moi, je mets toute ma production en pot. Donc c'est de la vente. Je fais pas de la vente en gros. Et donc je vends à ces magasins. Et sinon, je fais aussi des marchés. Donc les marchés paysans qui ont lieu sur la place du collège lycée à Die, les marchés festifs des lundis soirs des mois de juin, juillet et août pour faire de la vente directe. Voilà, et quelques marchés de ci, de là.
Éric Chaban, cette formation, pour vous, ça vous a éclairé sur le système de A à Z de cette activité d'apiculteur, que ce soit la production, le soin apporté, mais aussi la manière dont prendre profit au niveau d'une commercialisation, ou vous, c'est plus une par passion ?
Les éléments au niveau de la commercialisation ont été abordés, il y avait des éléments chiffrés. Je vous dis, le contenu du stage est assez complet. Par contre, moi, c'est effectivement une partie par rapport à mon projet que j'ai écouté avec intérêt, parce que globalement, les échanges qu'il y a eu avec si bien avec le groupe étaient très intéressants. Mais la commercialisation ne fait pas partie de mon projet. Je vais rester un apiculteur amateur.
Pour faire le point avec le CFPPA, à titre d'exemple, en 2024, sur le rucher école, donc on a produit à peu près 150 kg de miel. Et donc au niveau du CFPPA, il n'y a pas de vente de ce miel. Le miel est écoulé donc soit dans consommation et cadeaux au sein du CFPPA, ou pour honorer les contrats parrainage d'abeilles qui ont été passés avec deux entreprises du secteur. Donc à savoir pour le moment Megao et Golgema. Donc il y a en fait un accompagnement et un parrainage de la part de l'entreprise. Donc c'est un montant de 900 euros la première année et 500 euros les années qui suivent.
Que sont ces entreprises précisément ? Quel est leur rapport dans ce...
Donc eux parrainent le rucher et en contrepartie, le CFPPA leur fournit du miel pour leur cadeau d'entreprise ou voilà, destination de ce qu'ils souhaitent. Des photos, un suivi, des infos sur le rucher, des visites possibles. Voilà, dans l'idée que ça puisse véhiculer une volonté d'aider à la protection de la nature et de la biodiversité de la part de ces entreprises.
Le moment touche à sa fin et on peut peut-être se documenter, comme vous le disiez, il y a certainement une page internet avec le CFPPA de Die.
Tout à fait, ouais. Sur la page internet du CFPPA, vous avez un lien vers toutes les formations proposées au CFPPA. Donc la formation apiculture dont on a parlé s'appelle « Découverte d'une saison apicole, de l'installation du rucher à la récolte du miel ». Mais vous pourrez aussi voir les fiches des autres formations, donc comme je disais, celles où il reste de la place, Ucar poule, transformation, porc et petits fruits.
Moi j'ajouterais que j'ai apprécié grandement l'accompagnement qui m'a été fourni par le CFPPA avant l'inscription et au moment de l'inscription pour répondre à mes questions. Et ça a été, enfin voilà, c'était très appréciable.
Il y a aussi des moments de suivi au-delà de cette formation. Est-ce que d'anciens stagiaires viennent vous voir pour avoir peut-être des petites informations ou des petits...
Pour l'instant, ça n'a pas été mis en place officiellement. C'était fait avant, j'en ai pas parlé, mais mon prédécesseur, parce que moi, ça fait 3 ans que j'ai repris la formation, mais avant, il y avait Lionel Liénard qui a œuvré longuement au CFPPA et qui a notamment développé tout ce côté apiculture au CFPPA de Die. Et lui pratiquait ça. Pour l'instant, ça ne s'est pas remis en place, ces réunions d'anciens stagiaires. Après, j'ai la chance d'en croiser certains à Die de temps à autre.
qui viennent acheter du pain d'épices. Parce que...
Voilà, des gourmands qui viennent me voir. Et...
Il existe une entraide entre apiculteurs ?
Oui, globalement, il y a quand même une certaine entraide. Alors, je pense qu'il y a différents. Beaucoup d'apiculteurs qui ont peu de ruches, et il y en a beaucoup aussi. Enfin, il y en a moins, mais qui ont plus de ruches. Alors, ces deux milieux ne se croisent pas forcément, mais dans l'apiculture à destination des amateurs, il y a pas mal d'entraide, de commandes groupées, d'échanges de matériel, d'échanges de savoir. Voilà.
Margot Lesturgeon et Éric Chabanne, je vous remercie tous deux d'être venus sur Air du Bois pour nous parler donc de cette formation en apiculture qui aura lieu en février au CFPPA. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci.
Au revoir.